voilà arrivés à la dernière étape de notre voyage au pays étrange et mystérieux de la comptabilité. Dans ce 20e volume, nous allons non pas nous retourner sur ce qui fait la comptabilité actuelle, mais essayer de deviner, d'esquisser certaines pistes d'évolution des années futures. Alors, comment allons-nous faire ou qu'allons-nous explorer? Nous allons d'abord nous situer du point de vue de l'ISB, de l'International Accounting Standard Board, qui est l'institution qui élabore ces normes internationales qui s'imposent aux sociétés consolidées en Europe. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est que, ainsi que cela a pu être mis en évidence dans différents ouvrages, depuis 1973, cet organisme privé installé à Londres a su s'imposer comme point focal de la normalisation comptable internationale. En concurrence avec d'autres organismes au début, en particulier avec le FASB, son équivalent américain, depuis 1973, et peut-être grâce à l'aide de l'Europe et de l'adoption des normes comptables internationales dans l'Union en 2005, l'ISB s'est imposé comme le normalisateur de référence dans le monde et même comme le seul normalisateur de référence. Il est vrai que sa légitimité est parfois remise en cause, en particulier en France. Il y a des débats récurrents qui reposent la question de la raison pour laquelle on se soumettrait à des normes publiées par cet organisme privé formé de professionnels. En dépit de ces questions de légitimité, l'importance ou la centralité de l'ISB reste, à mon sens, relativement incontestable à l'heure actuelle. Néanmoins, et il est difficile de le nier, à l'occasion de la crise financière, cette institution a subi des critiques assez sévères. Et c'est sur ce balancement entre critiques formulées, réponses apportées et questions de légitimité que nous allons chercher à ouvrir les enjeux des périodes futures. Alors, à l'occasion de la crise financière, les critiques ont principalement porté autour de la question des instruments financiers et de leur valorisation. La juste valeur a été, comme souvent, au cœur des reproches. Et on a mis en évidence tout d'abord le fait que, en période de tourmente, à des moments où les marchés financiers dysfonctionnent ou ne sont plus efficients, il n'était plus possible d'appliquer des modèles de juste valeur. Il a été également reproché à la comptabilité de participer à la crise, à l'aggravation de la crise, en raison de la procyclicalité du modèle. Le modèle comptable, et en particulier celui de la juste valeur, a tendance à accentuer la crise parce qu'il l'auto-alimente. Il y a eu des questions de distorsion de concurrence qui sont peut-être maintenant un petit peu moins nettes, mais qui ont eu des conséquences importantes, en particulier entre le secteur bancaire français ou européen soumis aux normes internationales et le secteur bancaire américain soumis aux normes du FASB, du Federal Accounting Standard Board, l'organisme de normalisation américain. Enfin, à l'occasion de cette crise financière, a été remise en cause la gouvernance de l'ISB, la manière dont elle remplissait et s'assurait de bien remplir le mandat qui lui était confié, qu'elle s'était confié, de produire des normes comptables internationales de haute qualité. Revenons sur ces différents aspects successivement. Tout d'abord, l'inapplicabilité de la juste valeur en période de crise repose sur deux constats. D'abord, il n'y a plus de prix sur les marchés parce qu'il n'y a plus de transactions. Donc on ne peut pas observer de juste valeur sur le marché parce qu'il n'y a plus de marché. Il n'y a plus d'échange. C'est l'assèchement, par exemple, du marché interbancaire ou des activités sur ABS. Où les prix consentis sur les marchés ne sont plus le reflet de la vraie valeur, d'une espèce de valeur fondamentale, pour reprendre la terminologie, de ces instruments. L'idée étant qu'on est prêt à tout pour les vendre et donc à consentir des prix largement inférieurs à leur valeur réelle. L'ISB n'est pas resté face à ces critiques, les bras croisés, et a travaillé à une réponse selon plusieurs axes, et en particulier deux. Tout d'abord, elle a mis en place un groupe d'experts qui a travaillé sur les modalités d'application de la juste valeur. Il n'y avait pas là de grandes nouveautés qui ont été produites, simplement un rappel de ce que l'ISB entendait par juste valeur. Et qu'en particulier, la juste valeur correspondait à un prix de marché, Dans le cadre d'une relation d'égal à égal, dans des conditions de concurrence normales. Si les marchés dysfonctionnent, si vous êtes dans un rapport de force entre l'acheteur et le vendeur, le prix que vous obtenez sur les marchés n'est pas une juste valeur. Et la juste valeur n'est pas nécessairement un prix de marché, il peut être obtenu par des prix de marché sur des instruments comparables ou l'utilisation de données de marché, elle peut être obtenue également par l'application de modèles. Si le prix de marché pour vous n'est pas une juste valeur, passez à une valorisation par modèle. Vous me direz, la qualité de la juste valeur obtenue est moindre. Certes, du point de vue de l'ISB, néanmoins, vous donnez plus d'informations qu'en appliquant du coût historique, puisque vous intégrez des informations plus récentes. D'autre part, le lecteur des états financiers le sait, puisque dans les annexes, rappelez-vous ce que nous disions dans la note numéro 17, dans les annexes, vous avez l'information du type de valorisation utilisée pour arriver à cette juste valeur. L'ISB a également répondu à ces critiques en publiant une norme consacrée à la juste valeur, visant à homogénéiser, à unifier les définitions de la juste valeur dans l'ensemble du corpus normatif. Cette norme, la norme IFRS 13, qui a été adoptée, n'est pas encore applicable dans l'Union européenne parce qu'elle n'a pas encore été, en tout cas à l'heure actuelle, retranscrite. Deuxième grande critique formulée à l'encontre du modèle de l'ISB à l'occasion de cette crise financière, c'est la tendance de la valorisation des instruments financiers à accentuer les cycles économiques. Pourquoi? Eh bien, parce que vous comptabilisez des variations de prix et que la comptabilisation de ces variations de prix accentue les cycles. Les marchés baissent, vous comptabilisez des baisses de prix, eh bien, ça a tendance à alimenter la baisse des marchés. Les marchés montent, vous comptabilisez des hausses de prix, ça a tendance à accentuer la hausse des marchés. Cette procyclicalité, le terme n'est pas très gracieux, mais c'est celui qu'on retrouve des normes financières, est accentuée par le fait que ces pertes de valeur conduisent à l'amputation des capitaux propres et donc à la fragilisation du secteur bancaire en temps de crise, ce qui ne participe certes pas à leur bonne santé et au maintien de l'économie dans un état de marche relativement décent. À l'inverse, en période de haut de cycle, vous avez des renforcements de capitaux propres qui peuvent inciter les banques à prendre des risques démesurés au regard de capitaux propres qu'elles jugeraient à tort suffisants. Donc tous ces arguments ont été formulés à l'encontre du modèle de juste valeur et de sa tendance à accentuer les effets des cycles économiques. Si on observe des états financiers, cette variation des capitaux propres et des résultats a tendance à bien se voir. Vous avez ici les capitaux propres et les résultats du groupe BNP Paribas sur la période 1999-2009, avec l'introduction des normes IFRS à partir des états 2004. Les normes IFRS ont été introduites en Europe en 2005, mais vous deviez avoir un exercice comparatif, et donc on dispose de l'information dès 2004. On voit bien, si on trace un graphe, qu'on a une tendance à la variation des capitaux propres qui est plus marquée sur les années post-IFRS que sur les années pré-IFRS. C'est probablement encore plus net sur le résultat. Ceci est néanmoins à prendre évidemment avec prudence dans la mesure où cela supposerait que l'activité de BNP Paribas n'a pas évolué pendant la même période, ce qui n'est évidemment pas le cas. À ces critiques généralement formulées sur la procyclicalité de la juste valeur, différents arguments ont pu être formulés par l'ISB, parmi lesquels on peut retrouver l'idée que le système de coûts historiques induit également de la destruction de capitaux propres lors de la constatation de dépréciation. Période de crise, la valeur des instruments financiers diminue, eh bien, vous perdez aussi de la valeur et donc vous consommez des capitaux propres. Quoi, on rétorquera que la chute est moins rude puisque vous n'avez pas comptabilisé les plus-values antérieures, vous tombez de moins haut et donc vous vous faites moins mal. Certes, mais il faut voir également que le modèle de la juste valeur a été développé à la suite de critiques très sévères formulées à l'occasion des crises de la fin des années 90 à l'encontre du modèle de coûts historiques qui semblait être de nature à permettre aux banques de dissimuler une partie de leur perte, une partie de leur situation financière. On a introduit pour pallier les défaillances de ce modèle de coût historique le modèle de la juste valeur. Et il est remis en cause à l'occasion d'une autre crise. On peut voir là une autre cyclicité, la cyclicité des modèles comptables. Deuxième argument avancé par l'IASB ou les défenseurs de l'IASB, c'est le fait que le modèle de juste valeur est le modèle le plus pertinent ou le moins mauvais pour les instruments financiers. Ce que l'on pourrait dire en faveur de ce constat, c'est qu'effectivement, dans le système comptable français destiné aux sociétés réalisant un grand nombre d'opérations sur instruments financiers, donc les banques, le modèle de juste valeur était déjà très largement présent dans les bilans bancaires avant l'introduction des normes IFRS. À cet égard, le changement n'a pas été aussi radical qu'on voulait bien le penser. Par ailleurs, l'IASB soulignait le fait que c'est une information comptable qui est destinée à un public particulier. Il fait des états financiers pour l'investisseur. Le fait que le régulateur s'en sert pour définir les exigences en matière de fonds propres est une chose, possibilité qu'a le régulateur bien évidemment, mais ils ne sont pas faits pour lui. Donc on ne peut pas demander à l'IASB de satisfaire des besoins qui ne rentrent pas dans son mandat. Au demeurant, la régulation bancaire introduit ce que l'on appelle des filtres prudentiels qui permettent de passer des capitaux propres comptables aux capitaux propres prudentiels, ce qui dénote bien une certaine inadaptation ou inadéquation fondamentale de la comptabilité pour les besoins réglementaires. Et puis, dernière idée, certes, la juste valeur n'est pas parfaite, mais quelle est la bonne solution en matière d'instruments financiers ? Et si vous êtes exposé via des instruments financiers aux variations des marchés, quelle que soit l'idée que vous ayez sur la pertinence de la variation de ces marchés, n'est-il pas intéressant pour le lecteur des états financiers de le savoir et d'avoir le reflet des risques que vous prenez dans votre bilan et dans votre compte de résultat ? À ce compte-là, quelle est la pertinence d'un modèle qui ne serait pas un modèle de juste valeur ? C'est une question à laquelle je vous laisse réfléchir. La réponse n'est pas nécessairement très simple. Il y a eu, au début de la crise financière en tout cas, également de grands débats sur les distorsions concurrentielles qui auraient pu exister entre les établissements bancaires américains et les établissements bancaires européens. L'idée reposait sur quoi ? Eh bien, sur le constat mis en évidence par le rapport de René Ricol que dans le dispositif comptable américain, les instruments pouvaient quitter la catégorie de juste valeur vers des catégories où on lissait le résultat, alors que cette possibilité était exclue en normes internationales où vous ne pouviez pas quitter les catégories de juste valeur. C'est un débat qui, me semble-t-il, s'est un peu atténué depuis que l'IASB a adopté le 13 octobre 2008 un amendement à la norme sur les instruments financiers autorisant la sortie de la catégorie de valorisation à la juste valeur. Si vous changez de perspective sur la détention de ces instruments financiers, ça va être en particulier le cas pour les dettes. Vous aviez à l'origine l'intention de céder ces dettes, et bien finalement, vous allez les conserver parce que vous n'allez trouver personne pour les acheter peut-être. Ou en cas de circonstances exceptionnelles pour les autres instruments, la crise financière étant évidemment, vous en seriez douté, une de ces circonstances exceptionnelles. Donc cet amendement, mis en œuvre par l'IASB, un petit peu en contradiction avec son due process habituel, retranscrit dans l'Union européenne 2 jours après, ce qui est exceptionnellement rapide, a répondu à cette préoccupation de distorsion entre les normes américaines et les normes européennes, du moins sur ce point particulier. Dernière question, plus délicate, est celle de la gouvernance et de la légitimité aussi du processus de normalisation internationale. Quelle est la légitimité d'un organe de professionnel autoproclamé normalisateur comptable mondiaux, si ce n'est l'observation quand même assez forte que leurs normes sont de plus en plus utilisées. Quelle est l'assurance que ces professionnels respectent leur mandat, le mandat de produire des normes de haute qualité et hautement applicables ? L'IASB a fait des efforts également à la manière avec la mise en place d'un monitoring board, un comité de contrôle au sein duquel siègent des instances internationales de premier plan, parmi lesquelles l'IOSCO. Alors, l'IOSCO est une association internationale réunissant les régulateurs des marchés financiers. Il siège donc l'AMF pour la France, la SEC pour les États-Unis, le FSA pour le Royaume-Uni, par exemple. La Commission européenne, avec un représentant de la Commission européenne. La SEC américaine, on retrouve là le poids des marchés financiers américains. L'autorité des marchés financiers japonaise, JFSA, Japan Financial Services Agency, et à titre d'observateur, le comité de Bâle. Donc un organe des sages représentant les grandes instances de régulation financière internationale qui a la capacité à s'assurer du respect de son mandat par l'ISB et plus particulièrement par la fondation chapeautant cette ISB. Et le reste? Et le reste, ça ne veut pas dire, avec ces quelques notions que nous avons épuisé, la question qui se pose vis-à-vis de l'ISB, il y en a encore un certain nombre. Il y a des questions sur la décision des États-Unis d'adopter ces normes comptables internationales. Devait être prise en 2011, ça semble mal engagé, même si on est a priori toujours sur un processus de convergence et peut-être d'adoption. La question qui se pose sur la finalisation du projet, l'adoption du projet relatif aux instruments financiers, les normes comptables relatives aux instruments financiers font l'objet, vous l'avez vu, avec les critiques sur la juste valeur, de reproches répétés. L'ISB s'est lancée dans un projet de grande ampleur sur la refonte des normes concernant ces instruments financiers, visant en particulier à les simplifier. Une partie a été publiée, n'est pas encore retranscrite dans l'Union européenne. Le projet reste à finaliser, ça reste un sujet d'ampleur. Il y a la question évidemment des relations avec l'Europe, qui est un sujet important en raison du poids économique de l'Europe, mais aussi de la place historique que l'Europe considère avoir avec l'adoption en 2005 de l'ISB, qui a marqué le début ou la fin de l'ascension de cette normalisation internationale. Au total, la comptabilité, que beaucoup voient comme un sujet relativement désespérant, générant crainte et tremblement, gouttes de transpiration et ton de désespoir dans la remarque, est un processus qui n'est pas que technique, mais qui est aussi un processus politique. Et les questions qui se posent autour de la normalisation comptable internationale sont bien le signe de l'enjeu politique qui repose derrière ces questions en apparence techniques. Nous voilà arrivés au terme de ce premier cycle sur la comptabilité consacré à la lecture des états financiers, à des tentatives d'ouverture au-delà de la lecture de ces états financiers. J'espère qu'au terme de ces 20 leçons, relativement longues, mais en même temps courtes, étant donné la technicité du sujet, vous vous sentirez plus à l'aise dans la lecture des états financiers et que ce domaine vous semblera moins mystérieux et peut-être moins rebutant. Si ce n'est que cela, nos objectifs seront au moins remplis pour cette partie.